Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, on retrouvera nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Collo, notre globetrotteur Benaouda Abdelhaim, avec des voyages dans le temps et dans le monde absolument passionnants. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. Dans un an, presque jour pour jour, la France aura choisi son prochain président ou sa prochaine présidente. Aboutissement d'une année de campagne qui démarre. Ça y est, c'est parti avec les élections régionales. Alors, quels seront les déterminants du vote des Français? Comment le contexte économique, la mondialisation, la montée des inégalités, le chômage ou bien la situation démographique, le vieillissement de la population, la situation culturelle avec le rôle de la religion, normalement, comment tous ces facteurs influent sur les choix des électeurs? Réponse avec vous, Amaury Guettin, bonjour.
Bonjour.
Amaury, vous êtes chercheur au laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris et vous avez co-dirigé avec Thomas Piketty et Clara Martinez-Toledano une somme absolument colossale. Clivage politique et inégalité sociale, une étude de 50 démocraties entre 1948 et 2020, c'est aux éditions EHESS Seuil Gallimard. Et puis la vie démocratique, eh bien ce ne sont pas que les élections, c'est aussi ce qui se joue dans l'entreprise et notamment avec les syndicats, la vie syndicale, la représentation syndicale. Comment les syndicats ont-ils pu autant décliner en France, s'éloigner autant des centres d'intérêt des salariés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Paul Santelmann. Bonjour. Vous êtes bonjour. Expert de la formation continue et des politiques de l'emploi et vous publiez Travail et ambition sociale aux éditions L'Autre Face, une jeune maison d'édition à qui on souhaite évidemment beaucoup de succès. Je commence avec vous, Amaury Guettin. Alors, juste un mot quand même pour que vous nous expliquiez en quoi a consisté ce travail absolument colossal d'étudier toutes les données dans 50 pays sur 70 ans.
Oui, alors l'objectif vraiment de l'ouvrage, c'est peut-être pour la première fois de fournir un panorama historique et mondial du vote en démocratie. Et donc nous sommes focalisés ici sur 50 démocraties, donc 21 démocraties occidentales, donc Europe, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, et 29 démocraties dans le reste du monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour comprendre voilà tout simplement qui vote pour qui
et selon quels critères.
Et selon quels critères, en fonction du revenu, du diplôme, de votre appartenance religieuse ou encore de l'âge, du genre.
Alors on a plein de présupposés comme ça. Est-ce que il y a par exemple un vote de classe? Est-ce qu'on vote en fonction du fait qu'on est riche ou qu'on est pauvre? Est-ce qu'on vote en fonction de son identité culturelle? Est-ce qu'il y a un vote identitaire? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on arrive à repérer ou pas?
Oui, tout à fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que la réponse à cette question, elle varie énormément, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et justement, les démocraties occidentales, dans une certaine mesure, on peut dire que le vote de classe était beaucoup plus marqué dans les années 1950 qu'aujourd'hui. Donc, on a eu vraiment un déclin de ce vote de classe. Et la transition de ce que nous appelons un système de parti classiste, c'est-à-dire un système dans lequel la classe sociale déterminait fortement le vote, ouais, à un système que nous appelons d'élite multiple, dans lequel le revenu et le diplôme, donc ces deux dimensions de la classe sociale qu'on peut considérer, séparent les électeurs dans deux coalitions, c'est-à-dire que les élites économiques continuent de voter à droite, tandis que les élites, disons, diplômées aujourd'hui, se sont tournées vers les partis de gauche écologistes. Donc une complexification très importante.
Donc pour bien comprendre, jusque dans les années 80, il y avait plutôt les catégories sociales populaires qui votaient plutôt à gauche, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc, si vous prenez le revenu, le diplôme, le patrimoine, les électeurs les plus défavorisés dans ces trois dimensions-là votaient majoritairement pour les partis de gauche.
D'accord.
Tandis que les électeurs les plus favorisés votaient majoritairement pour les partis de droite. Et donc, le revenu et le patrimoine continuent de déterminer le vote de droite. Donc, les plus riches, les plus aisés continuent de voter à droite. Mais les plus diplômés, donc ceux qui ont vraiment bénéficié de l'expansion du système d'éducation supérieure, eux se sont tournés de plus en plus vers les partis de gauche et en particulier les partis écologistes.
Alors, ça, c'est quelque chose que vous démontrez aux États-Unis de façon spectaculaire, mais aussi en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, les catégories populaires sont même allés jusqu'à voter pour tous les nouveaux candidats qu'on pourrait appeler un peu populistes. C'est-à-dire qu'en gros, les ouvriers, les employés ne votent plus pour la gauche, mais votent pour finalement des candidats plutôt de droite populistes, alors que les élites de gauche qui les élites plutôt qui votaient à droite, et ben maintenant. On voit bien que l'électorat du Parti démocrate aux États-Unis, par exemple, c'est les intellos, c'est les catégories sociales supérieures.
Voilà, c'est vrai. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que le clivage racial, bien sûr, rentre en compte. Et dans la mesure où les électeurs noirs votent encore très, très massivement pour le Parti démocrate, donc plus de 90% des Afro-Américains votent pour le Parti démocrate de manière très stable depuis les années 1960. Et ces électeurs-là sont beaucoup plus défavorisés socialement. Donc, ils continuent de voter pour le Parti démocrate. Donc, on préserve une forme de vote de classe ici. Mais, clairement, une partie des catégories populaires blanches se sont tournées, effectivement, vers le Parti républicain.
Alors, est-ce qu'on peut parler de montée d'un vote identitaire ?
Oui, on peut parler de montée d'un vote identitaire, mais il faut aussi se rendre compte que ce vote identitaire, il se nourrit aussi du déclin des clivages économiques. Et sans doute que la transformation idéologique du Parti démocrate et plus généralement des partis sociodémocrates, socialistes dans les démocraties occidentales, avec notamment la modération de leurs programmes économiques, a joué un rôle aussi pour permettre l'émergence de ces clivages identitaires et leur prise d'importance dans l'espace politique.
Alors, est-ce que la montée des inégalités sociales explique l'évolution des votes ?
Alors, c'est très complexe comme question, mais effectivement, on peut penser que dans une certaine mesure, la montée des inégalités a permis de nourrir ces clivages identitaires, dans la mesure où les partis qui jadis étaient les garants de la défense de l'égalité, donc les partis communistes socialistes, ont aussi pris part à cette transformation, à cette montée des inégalités. Et donc, on peut considérer aujourd'hui que une partie du déplacement des catégories populaires vers ces nouveaux partis d'extrême droite en particulier, s'est aussi nourri. Voilà, de cette transformation idéologique.
Mais est-ce que c'est payant de s'attaquer dans son programme électoral à un sujet comme les inégalités ? Est-ce que c'est un sujet auquel les électeurs sont sensibles ?
Alors oui, je pense que c'est un sujet pour lequel les électeurs sont sensibles. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion le montrent. Et le fait que ces sujets-là sont encore au cœur des débats politiques, on n'a pas encore été complètement abandonnés des élections, montre que c'est un sujet très important. Cependant, voilà, pour vraiment que ces problématiques-là prennent de l'importance, il faut que les programmes soient véritablement ambitieux. Et donc la convergence aussi des partis traditionnels sur les problématiques économiques a participé de, la perte d'importance de ces clivages de classe aussi, je pense.
Et oui, parce que comme l'offre économique s'est rapprochée finalement entre les différents candidats, la segmentation elle s'est faite sur d'autres sujets.
Voilà, exactement. On peut considérer que l'offre politique influe de manière très forte aussi sur les clivages, sur la représentation des inégalités. Et cette convergence a sans doute joué un rôle.
Alors, est-ce qu'il y a, parce que ça fait partie aussi des clivages qui sont apparus ces dernières années, est-ce qu'il y a un clivage générationnel, par exemple ? Est-ce que dans le vote, il y a les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, voire les jeunes contre les vieux contre les jeunes ?
Alors, c'est une question très intéressante. Il y a beaucoup de travaux en sciences politiques qui suggéraient ça, justement, qu'il y ait un nouveau clivage générationnel. Mais nous, lorsqu'on combine un peu toutes les données disponibles, on voit qu'en fait, ce clivage générationnel, il a toujours existé depuis les années 1950. C'est-à-dire que les électeurs les plus jeunes sont toujours un peu plus favorables aux partis de gauche, de manière générale. Et il n'y a pas non plus de tendance croissante ou d'évolution très claire sur le long terme de ce clivage-là. Donc les électeurs plus jeunes, oui, votent un peu plus à gauche, mais ce n'est pas un trait particulièrement saillant. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est vraiment l'émergence de ce clivage éducatif au sein des nouvelles générations. C'est-à-dire que le fait que les électeurs les plus diplômés se soient tournés à gauche, s'explique surtout par le fait que les électeurs jeunes les plus diplômés soient tournés à gauche, tandis que les électeurs jeunes qui, en quelque sorte, ne bénéficient pas de l'évolution du système éducatif, eux, se sont tournés vers les partis conservateurs.
Ouais, donc c'est là que se forge le clivage. Or, si j'essaye de me rappeler les travaux, notamment de René Raymond, il expliquait, en fait, on vote pas à gauche quand on est jeune et à droite quand on est vieux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peu de gens qui changent d'opinion politique au long de leur vie. Donc, ça veut dire que ce clivage, au fur et à mesure que ces gens vont vieillir, bah, il va perdurer.
Oui, exactement. C'est-à-dire le fait qu'on observe ce nouveau clivage éducatif au sein des nouvelles générations suggère que, à mesure que les anciennes générations prennent une part décroissante de l'électorat, on pourrait observer un renforcement de ces formes de clivage.
Alors là, Amaury Guettin, très clairement, bon, on a brossé des grandes tendances un peu au niveau mondial. Est-ce que ce que vous avez dit là, par exemple, est vrai pour la France ?
Oui, oui, absolument. Alors la France est un cas particulier et très intéressant dans la mesure où l'élection de 2017 a pour la première fois conduit à une vraie fragmentation de l'électorat en quatre quarts, selon exactement ces critères de revenus et de diplômes, et selon deux axes politiques, un qu'on peut qualifier d'économique, voilà, donc les problématiques économiques continuent de jouer un rôle, et un axe plutôt, disons, identitaire. Et donc, ces quatre quarts-là, c'est d'abord Emmanuel Macron qui représente, disons, un pôle internationaliste inégalitaire, un pôle ensuite de gauche qui serait plutôt internationaliste égalitaire, donc plutôt à gauche sur les problématiques économiques et sur les problématiques sociales, l'extrême droite qui elle représente un pôle nativiste et égalitaire, et ensuite Fillon un pôle nativiste inégalitaire. Donc on a vraiment une fragmentation de l'électorat en quatre quarts.
Et donc quand on a description que vous venez de faire, est-ce que vous avez une idée des thèmes sur lesquels se feront la campagne, les sujets qui seront vraiment clivants et sur lesquels se feront le vote?
Encore une fois, je pense que ça dépend très fortement de l'offre politique. C'est-à-dire qu'on peut considérer une union de la gauche qui serait suffisamment ambitieuse pour que les problématiques économiques convainquent les électeurs de gauche et donc qu'elles prennent plus d'ampleur dans l'élection. À l'inverse, on pourrait considérer que ces partis-là seraient trop fragmentés et donc n'arriveraient pas à pousser ces messages-là. Et là, on pourrait voir des clivages identitaires plus forts se dessiner. Tout est possible.
Donc vous dites de l'audace dans l'offre ?
Sans doute.
Et sinon, effectivement, les Bolsonaro, les Trump... voilà, c'est des gens qui ont réussi à émerger. Rapidement, s'il y avait quelques pays dans le monde dans lesquels il faudrait, je sais pas, qui mériterait d'être racontés pour, je sais pas, une situation remarquable, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous, dans votre panorama mondial ?
Alors, un grand résultat du livre, c'est vraiment de déconstruire l'idée selon laquelle les pays occidentaux seraient un petit peu exempts davantage que les pays non occidentaux de clivage identitaire. Et au contraire, on voit que c'est l'Occitan qui, dans une certaine manière, s'ethnicise ou se tribalise là où un certain nombre de pays non occidentaux voient des clivages de classe plus clairement se dessiner. Le Brésil est vraiment un cas très clair, notamment avec l'élection de Lula da Silva en 2002, qui met en place des politiques qui bénéficient très fortement aux plus pauvres. Et là, on voit vraiment un vote de classe très clair se dessiner. Les électeurs les plus défavorisés, autant en termes de revenus que de diplômes, votaient massivement pour le PT. Et ce clivage, il a en quelque sorte perduré jusqu'à aujourd'hui.
Alors, Paul Santelmann, dans le même contexte que celui qu'on vient d'évoquer, donc le contexte de la mondialisation, du chômage, du creusement des inégalités, on se dit finalement, ça aurait dû être du pain béni pour les syndicats. Or, pas du tout, le syndicalisme en France n'a jamais été dans une situation aussi dramatique.
Ouais, tout à fait. Et dans une grande indifférence de la classe politique.
Ben oui.
En fait, toutes les composantes de la classe politique ont laissé ce déclin du syndicalisme se développer. Et aujourd'hui, on est vraiment à une situation en Europe où la France bat les records de sous-implantation du syndicalisme.
Alors juste, est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous donner des ordres de grandeur ?
Alors, 8 à 9% d'implantation syndicale dans le secteur privé.
Ouais.
Donc sur les 20 millions de salariés du privé, les 10 syndicats, hein, parce qu'il y a les grandes centrales syndicales représentatives auxquelles s'ajoutent la FSU, Solidaire. Donc ces 9% de syndiqués se diffusent sur une dizaine de syndicats.
Est-ce qu'il y a eu un âge d'or du syndicalisme en France ?
Oui, il y a eu un courage d'or dans l'après-guerre où la CGT était très dominante,
ouais,
avec une toute petite CFTC, où là, il y a eu une sorte de bras de fer entre la CGT, le patronat et la classe politique. Et puis, ça s'est délité dans les années 60.
Alors, pourquoi ça s'est délité? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ça s'est délité parce que finalement, la CGT, à l'époque, ne s'est pas positionnée comme force de proposition dans les transformations économiques des années 60. En fait, on a eu un syndicaliste de confrontation qui n'a pas perçu que le rôle du syndicat, c'est peut-être pas de préparer le grand soir,
ouais,
mais c'est vraiment de faire en sorte que les salariés puissent peser sur les transformations économiques avec l'incidence des transformations sociales. Et là, je pense que à partir du moment où les salariés n'ont pas été entraînés par le syndicalisme pour peser sur ces changements, bon, il y a eu une sorte de ralentissement de la syndicalisation, et puis mai 68 est arrivé.
Ouais.
Et mai 68 a accentué cette affaire, ce clivage. D'abord parce que ça a fait monter les courants contestataires révolutionnaires, y compris au sein des syndicats. Bon. Et puis surtout parce que dans l'après-mai 68, bon, là, on a très rapidement la crise économique qui va arriver, 73, la crise du pétrole.
Oui, mais ce qu'on voit bien aussi, c'est que je trouve que vous expliquez bien comment les syndicats se sont plus préoccupés de faire de la politique, ce qui s'est manifesté par la montée en puissance de la Confédération, hein, le niveau suprême du syndicat, qui est devenu une espèce de bureaucratie totalement tournée vers le débat politique, au détriment finalement des problématiques quotidiennes des salariés dans les entreprises.
Mais cette absence d'intérêt pour les problématiques de terrain du secteur marchand, au sein du syndicalisme, ce sont les fédérations du secteur public et de la fonction publique qui ont pris la main sur la stratégie des confédérations.
Ah oui.
Et oui. Et là, on voit que le syndicalisme est plus implanté dans la fonction publique et dans le secteur public, avec quand même un paradoxe, c'est que plus on descend dans la hiérarchie des catégories professionnelles, moins on est syndiqué.
Ouais.
C'est-à-dire que les syndiqués sont en haut.
Ouais. Donc en France, être syndiqué, c'est faire de la politique. C'est pas défendre la vie des salariés.
Ouais.
Et alors, évidemment, parce que vous dites, tout à l'heure, vous avez dit, mais tout ça s'est fait dans l'indifférence générale. Mais au contraire, c'est-à-dire qu'en gros, ce déclin des syndicats, finalement, il a permis à l'État de garder la main et finalement de continuer à nous fabriquer une réglementation du travail qui s'est nourrie de cette faiblesse des syndicats.
Absolument, qui l'a entretenue. Bon, on a un État jacobin, mais on a aussi une classe politique jacobine. C'est difficile de trouver dans l'éventail de la classe politique un courant qui est véritablement décentralisateur, qui est véritablement ouvert à un dialogue social dynamique, et qui, en même temps, est force de proposition par rapport aux transformations économiques.
Alors que vous dites bien dans votre livre que le point commun de tous les syndicats efficaces dans le monde, c'est des syndicats qui mènent des actions décentralisées, oui, avec une grande présence sur le terrain, tout le contraire de ce qu'on fait en France, quoi.
Et oui, sur la politique de l'emploi, sur les politiques de formation professionnelle, le syndicalisme a vraiment quelque chose à dire. Parce que d'abord, ça impacte le chômage, impacte qui ? Les salariés les moins qualifiés.
Ouais.
Donc il y a vraiment une réflexion à avoir, mais pas simplement une réflexion, une action. Et quand on voit que le régime d'assurance chômage français, qui est géré par les partenaires sociaux, a laissé l'État intervenir sur la politique de l'emploi avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a une politique de l'emploi qui n'est pas très efficace. On a le chômage de longue durée le plus important d'Europe. On a aujourd'hui dans certaines régions des chômeurs qui sont au chômage depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans. Hein, moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Bon, je me souviens des batailles d'Usinor à Denain. Aujourd'hui, à Denain, le chômage de longue durée, c'est la moitié de la population.
Pourquoi nos syndicats n'ont jamais su combiner efficacité économique et justice sociale ? Peut-être parce qu'ils faisaient trop de politique, hein.
Ils attendaient beaucoup, effectivement, de la politique et de la gauche.
Ouais.
Il y a eu quand même une grande déception, hein, en 80-82, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Il y avait une grande attente de la part du mouvement ouvrier, hein, des salariés, mais aussi des syndicats. D'ailleurs, les syndicats étaient très présents dans les cabinets des ministres de gauche à l'époque. Bon, et on a bien vu que finalement, les réformes qui ont été menées n'ont pas une incidence formidable sur la réalité sociale et la justice sociale.
Est-ce que l'extrême division syndicale, qui est quand même une spécificité française, là aussi, hein, on a les grands syndicats représentatifs, mais je sais pas, il y a une dizaine de syndicats, voilà. Alors qu'ailleurs, vous en avez quoi, deux, trois, généralement. Est-ce que cette extrême division syndicale, c'est la cause ou la conséquence, de tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant?
Ah ben, c'est les deux. D'abord, on a un système, un scrutin d'élection syndicale, la proportionnelle, qui favorise aussi cette fragmentation. Et puis les divisions vont dans tous les sens. Il y a les divisions verticales, 700 conventions collectives nationales, mais aussi départementales, qui fait que tous ces syndicats sont focalisés sur un dialogue social d'en haut. Bon, ils ont abandonné le terrain. Les unions locales, les unions départementales, les unions régionales sont désertées. Les salariés ne les connaissent même pas. Donc, ça, c'est une première explication. Deuxième explication, ce que je disais, la mainmise des fédérations du secteur public au sein des grandes confédérations accentue cette logique de centralisation.
Est-ce qu'il y a un sujet sur le financement ?
Alors, évidemment, les cotisations avec un faible niveau de syndicalisation, les cotisations ne suffisent pas à faire vivre le syndicat. Ouais. Donc on a des subsides de l'État. Et puis l'État a entraîné le syndicalisme dans une gestion paritaire ou une gestion tripartite de tout un tas de dossiers, l'origine de l'assurance chômage, la formation professionnelle, etc., qui crée aussi un peu des rentes de situation pour le syndicalisme. Un syndicalisme faiblement implanté est présent dans des centaines de commissions et de sous-commissions nationales, régionales, départementales, sur des sujets où finalement ils sont prisonniers et neutralisés par les fonctionnaires, par l'État.
Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Qu'est-ce que vous proposez pour aller vers un syndicalisme, je sais pas, plus dynamique, plus efficace, plus en phase avec les attentes des salariés, sachant qu'en plus, on n'a pas évoqué du tout tous les sujets sur la révolution digitale, les nouvelles façons de travailler, etc. Est-ce que cette révolution technologique, économique, c'est pas aussi une opportunité pour essayer de refonder tout ça ?
La diffusion du numérique, le défi écologique sont vraiment des opportunités pour le syndicalisme de s'emparer de ces sujets sous l'angle des pratiques de travail, des organisations de travail, des techniques, des choix technologiques à faire. Le syndicalisme doit se réapproprier cette logique de force de proposition. Alors tous les syndicats ne sont pas exactement dans la même position par rapport à cela. Il y a un syndicalisme de transformation qui se dit, il faut peut-être quand même arriver à négocier avec le patronat sur toutes ces transformations, mais ça partira du terrain. C'est pas par le haut, c'est pas en attendant que l'État arbitre sur ces sujets qu'on y parviendra. Il faut vraiment que le syndicalisme passe des messages très clairs dans les territoires. Aujourd'hui, la question territoriale est hyper importante.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, ce qui pourrait aider peut-être à pousser les gens à se syndiquer, que quand un syndicat négocie, ce qu'il négocie ne concernera que les membres de son syndicat ? C'est une forme de syndicalisme un peu clientéliste, vous voyez ?
Ouais, mais là, il faudrait d'abord...
Ce qui se fait dans d'autres pays. Hein.
Ouais. Mais déjà, dans les accords d'entreprise, il faut savoir que les délégués syndicaux non élus ont le monopole des accords d'entreprise. Ouais. Ce ne sont pas les élus, parce que, le sujet est complexe, mais il faut quand même savoir que dans une entreprise, il y a les délégués du personnel, il y a les délégués élus, qui aujourd'hui sont regroupés dans une nouvelle structure qui s'appelle le CESE, hein, le Comité économique social, et il y a les délégués syndicaux qui sont nommés par les syndicats. Et petit à petit, le patronat a préféré négocier avec des syndicalistes non élus qu'avec des élus. Et donc aujourd'hui, on a vraiment peut-être à réfléchir sur le sens et le contenu des accords d'entreprise. Ouais. Pour cela, moi je suis partisan d'une solution, qu'on change le scrutin proportionnel pour un scrutin majoritaire. Le syndicat qui arrive en tête a la majorité des élus face au patron.
Ouais.
Et il peut s'engager vis-à-vis des salariés sans expliquer que c'est à cause des autres syndicats qu'ils n'arrivent pas à faire passer ces propositions. Là, il y a un vrai débat à avoir, mais ça signifie quand même qu'il faut remettre en cause le dialogue social dans l'entreprise. Ça partira de là, hein, ça partira pas du haut.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle vos deux livres, Amaury Guettin avec Clara Martinez-Toledano et Thomas Piketty. Vous êtes les chefs d'orchestre de cet ouvrage collectif qui s'appelle « Clivage politique et inégalité sociale, 50 démocraties passées au crible depuis 1948 », publié par les éditions EHESS Gallimard. Seuil et puis Paul Santelman, « Travail et ambition ». Social aux éditions L'Autre Face, jeune maison d'édition, je le rappelle. Et ben voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite avec nos chroniqueurs et nos critiques.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechip.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous retrouverons nos chroniqueurs pour la fin de l'émission. Benaouda Delaï, notre globetrotter, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, nos critiques attitrées vont se livrer à leur coup de cœur et leur coup de gueule. On commence avec Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, le lecteur, le critique d'Alternative Économique, éditorialiste éminent, bien évidemment. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP, critique, lui, titulaire, j'ai envie de dire, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian. Le choix, c'est La 5G, le livre de Sébastien Dumoulin, alors qu'il n'a pas appelé La 5G, qu'il a appelé La guerre mondiale des ondes. C'est publié chez Talendier.
Alors, le vrai titre, c'est comment les États-Unis ont voulu tuer Huawei, hein, ouais. Parce que c'est de ça dont il est question. Et du coup, le livre, le premier intérêt du livre, c'est de nous dévoiler un petit peu ces entreprises chinoises dont on entend souvent parler, mais qu'on connaît pas bien. Donc, on a son fondateur qui fonde l'entreprise en 1987. Il vient d'une famille qui est plutôt pauvre, hein, et il passe dans les services scientifiques de l'armée. Puis il fonde sa PME de commutateurs téléphoniques, très stratégique, comme personne le connaît. Il va commencer par s'installer dans les campagnes chinoises, et comme ça marche bien, il va aller dans les villes chinoises. Et quand il va se développer dans le reste du monde, il va faire pareil. Les pays pauvres, les émergents, et quand ça marche bien, il va dans les grands pays industrialisés. Ça a toujours été sa stratégie. Et en une vingtaine d'années, il devient le numéro un des équipements téléphoniques mondiaux, le numéro deux des téléphones portables. Vraiment absolument impressionnant. D'où vient ce succès absolument incroyable de Huawei? C'est, je trouvais, le deuxième intérêt du livre, de nous dire d'où ça vient. Évidemment, on est en Chine, donc des coûts salariaux très bas, et l'entreprise en a vraiment beaucoup bénéficier, mais aussi une R&D absolument incroyable. Elle fait partie des 5 entreprises au monde qui investissent le plus en R&D. Et puis, bien sûr, toute la politique industrielle chinoise, tout l'appareil financier d'État chinois qui est derrière, une ligne de crédit de 30 milliards à taux d'intérêt bas, ça aide quand même à se développer sur les marchés internationaux, des tarifs fonciers avantageux, des subventions, etc. Toute la politique industrielle chinoise derrière. Et ça, ça fait de Huawei le champion mondial de la 5G et l'un des champions mondiaux de l'intelligence artificielle. Et les Américains ne supportent pas. Donc il y a ces fameuses accusations d'espionnage. Et donc là, moi j'apprends dans le livre, alors l'auteur nous dit tout ce que les Américains disent contre Huawei, c'est faux. Hein. L'auteur est pro-Huawei, il faut savoir, de la première page à la dernière page.
D'accord.
Donc est-ce qu'il a raison ou pas? Je ne suis pas assez spécialiste, mais en tout cas il est pro-Huawei toujours, hein, sur tout le livre.
C'est jamais de leur faute, ils sont blancs comme neige.
Quand on les attaque, c'est faux. Regardez, d'accord, quand on nous dit, par exemple, les autorités chinoises vont passer par le matériel Huawei pour récupérer toutes les infos du monde, et toutes les infos du monde, c'est nos villes, c'est nos voitures, c'est tout qui va être réglé par la 5G et l'Internet connecté. Et regardez, ils ont fait un truc, moi j'ai appris ça, ils ont dit aux autorités anglaises, aux espions anglais, vous prenez tout notre matériel, vous le démontez tout ce que vous voulez, de millimètre par millimètre. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Ils ne trouvent rien. Les services secrets américains ont pénétré le serveur de Huawei, ce qu'ils accusent Huawei de faire pour les autorités chinoises. Les autorités américaines l'ont fait. Et Huawei dit, ils sont rentrés dans notre serveur, ils nous ont tout piqué. S'ils avaient trouvé quelque chose, croyez-moi, ils l'auraient mis sur le devant de la scène. Or, ils n'ont rien trouvé. On les bloque, plus accès aux microprocesseurs. Et donc, quand on fait de l'équipement téléphonique et des terminaux, est-ce que ça aurait dû tuer Huawei? Là, toute la fin du livre nous dit, est-ce que Huawei va mourir? Non. Pourquoi? Parce que ça va peut-être fait pousser Huawei à se surdévelopper de manière technologique. À côté d'Apple et d'Android, ils ont déjà réussi à développer leur système d'exploitation avec le risque, dit l'auteur, d'un splinternet. J'ai appris ce mot aussi, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, quand vous avez accès à Internet, vous avez accès à Internet partout dans le monde, bah peut-être qu'il y aura une partie du monde qui sera sous exploitation chinoise, une partie du monde sous exploitation Apple et Android. Une enquête absolument fascinante. On n'est pas dans James Bond, mais presque. Et bon, il faut le savoir, je le répète encore une fois, l'auteur à chaque fois dédouane Huawei de toute attaque.
Bon. Jean-Marc,
oui,
vous qui êtes un grand spécialiste de la technologie.
Ah absolument. D'ailleurs, comme l'a dit Christian,
on est polytechnicien ou pas, Jean-Marc.
Et le fondateur est fasciné par les ingénieurs. Et d'ailleurs, le représentant en France de Huawei est un polytechnicien et il a créé un centre de recherche qui est confié à Normalia. Donc, ça s'appelle l'Institut Lagrange.
Je crois que c'est une des entreprises au monde aussi qui a le plus d'ingénieurs en proportion du nombre de
absolument,
salariés.
Absolument. Et donc, le livre, alors, c'est un livre qui est très agréable à lire. Il est construit comme tous ces livres de journalistes. On commence par une anecdote et puis après, on rebondit sur l'anecdote. Quelquefois, l'anecdote est un peu lointaine du point terminal de raisonnement. Et puis, c'est un livre qui, en plus, sur ces anecdotes, construit vraiment une analyse de Huawei. Christian l'a bien décrit sur cette entreprise. Donc une des forces aussi, c'est non seulement le fait que l'État chinois a financé de façon quasiment sans limite, mais aussi, c'est ce qu'explique d'ailleurs le fondateur, c'est qu'ils n'ont jamais absorbé aucune autre entreprise, ce qui fait qu'ils ont toujours conservé une véritable culture d'entreprise. Alors qu'il y a une analyse assez intéressante du fait que quand on absorbe, quand on essaie de faire de la croissance par absorption, on finit par se heurter à des conflits entre les deux équipes qui sont associées. Mais alors le livre... On commence avec Huawei et puis progressivement, à partir du milieu du livre, il y a un moment où on nous raconte que un ingénieur grec s'est suicidé la veille de son mariage, alors qu'on ne se suicide pas la veille de son mariage, dit l'auteur. Quand on se marie, c'est qu'on est heureux, donc on se suicide pas. Ce que j'ai trouvé assez sympathique de la part de l'auteur. Et donc, on rentre à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a un chapitre où l'anecdote commence avec James Bond. Dans la fin du livre... on dédouane effectivement Huawei, on accuse les Américains de tout un tas de choses, on finit par se demander si c'est pas un peu des fantasmes de l'auteur, il y a quand même... Donc il le dit, les services secrets sont derrière tout ça, la CIA manipule, bon... il y a des moments où on a l'impression qu'il s'invente un peu une histoire, c'est... il essaie de s'appuyer sur des arguments...
Ça s'appelle le roman d'espionnage de la 5G.
Et bien alors, une conclusion qui est assez positive, donc, c'est de dire que finalement l'Europe peut, dans ce combat entre les Américains et les Chinois, elle peut encore tirer son épingle du jeu, d'autant plus que les deux autres grandes entreprises de la 5G sont des européennes, c'est
Ericsson
et Nokia, et donc on n'est pas totalement hors du combat.
Très bien. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc. Alors, est-ce que c'est un roman? Je ne sais pas. Quand même, si. Xavier Fontanet, conquérir le monde avec son équipe. Aux éditions Manitoba, Xavier Fontanet, c'est quand même lui qui était à la tête de cette formidable réussite qui a été Essilor.
Absolument, oui. D'ailleurs, c'est un conte, mais c'est un conte, une histoire vraie. Il raconte son histoire à la tête d'Essilor. Depuis 1991, il rentre en 1990 et puis il devient directeur général en 1991 jusqu'en 2013. Et donc, le livre, en fait, est en grosso modo, là aussi, deux parties. Une partie où il raconte son histoire et tous les enjeux qu'il y avait et comment il a transformé cette entreprise qui, au départ, était une PME française, dont une partie venait d'ailleurs d'une coopérative, donc il y avait encore beaucoup de l'actionnariat qui était entre les mains des salariés, et comment il en a fait la première entreprise, ou la deuxième, suivant comment on compte, l'entreprise mondiale d'optique et de verre ophtalmique. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les conclusions, la deuxième partie, où il en tire quelques conclusions sur comment on gère une entreprise. Donc, il dit, méfiez-vous de l'endettement, essayez plutôt de vous autofinancer, faites en sorte que les gens soient heureux dans l'entreprise, associez systématiquement les gens aux décisions que vous prenez, et surtout méfiez-vous en permanence de vos concurrents, c'est-à-dire ayez toujours un œil sur ce que font vos concurrents et ayez toujours un temps d'avance par rapport à eux. Alors là, on rejoint là aussi la culture d'ingénieur, la recherche et le développement, c'est essentiel, d'autant plus qu'il explique qu'il est arrivé à une époque où on était un peu à la fin du verre sur les lunettes, et on est maintenant sur des matériaux qui sont extrêmement divers, avec la certitude que de toute façon ce sera toujours payant, parce que, et l'émission est en train de le prouver, le nombre de gens qui portent porte des lunettes est considérable à la surface de la planète. Et une des conséquences du développement d'un certain nombre de pays, des pays émergents, c'est que le nombre de gens qui portent des lunettes va encore augmenter parce qu'il y a un élément de confort. Il y a une anecdote que je trouve charmante, c'est que il va en Inde et il y a quelqu'un qui apprend qu'il est là, qui vient le voir, qui est hyper métrope et qui lui dit grâce à vous, j'ai pu avoir des lunettes. Ah, et donc il dit, mais vous rendez pas compte, ça a changé ma vie parce que j'ai découvert que ma femme était belle. Avant, je la voyais à peine, alors que là, grâce à vous, j'ai découvert que j'avais épousé une femme d'une très grande beauté. Et j'ai trouvé ça à la fois amusant et très émouvant.
Les lunettes, ça change la vie, Jean-Marc, d'y voir. Christian Chavagneux, votre regard sur ce livre d'un grand patron. Bon, quand
vous
même.
Savez que moi, généralement, je suis pas fan des livres de patron.
Je sais.
Mais toute règle a ses exceptions. Je vous le dis tout de suite, ce livre est fascinant. Et vraiment très intéressant.
Incroyable.
Une fois que vous avez enlevé mes collaborateurs étaient formidables, toutes les 10 pages. Ouais. Une fois que vous avez enlevé ce qui vient comme un cheveu sur la soupe à la fin du livre. Ah, il y a trop d'impôts et la fiscalité, c'est pas bien, les impôts, c'est pas bien. Une fois que vous avez enlevé ça, vous avez un livre absolument fascinant. Pourquoi? Parce que c'est très rare que vous ayez un patron qui vous dise, voilà, j'ai pris mon entreprise, elle était comme ça. Voilà, non pas comment, regardez comment je suis le meilleur du monde, mais voilà tous les problèmes que j'ai dû résoudre. Et voilà, je me suis posé des questions. Et c'était pas évident d'y répondre. Donc, quand il arrive à ici, l'entreprise fonctionne pas très très bien, il y a beaucoup d'activités, beaucoup font des pertes, l'endettement monte, qu'est-ce qu'on fait? Bon là, il raconte bien, mais la stratégie n'est pas très originale, il a fait ce que tout le monde fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il se recentre sur le meilleur business, il dégraisse parce qu'une fois que vous enlevez de la masse salariale, bah, le résultat d'exploitation ça monte tout de suite et il cherche des gains de productivité sur ce qui reste le cœur de métier. C'est ce que tout le monde fait, mais encore faut-il le réussir. Et là, visiblement, il l'a bien réussi. Et après, il se dit, bon, une fois que j'ai fait ça, je vais pas en rester là, je veux devenir le leader mondial. Qu'est-ce que je fais? Et là, il dit, est-ce que je dois, par exemple, je suis une entreprise multinationale, est-ce que je dois tout centraliser la décision ou est-ce que je dois la décentraliser dans tous les pays où je suis? C'est loin d'être évident comme réponse. Est-ce que je dois automatiser ou délocaliser? C'est loin d'être évident. Et à chaque fois, Xavier Fontanet nous dit, voilà, j'ai été confronté à telle ou telle décision, je ne sais pas quoi faire. Et tout, il y a 10 pages, on arrive là, on est juste avant le milieu du livre, et là, il y a 10 pages sur comment il décide de déstabiliser son principal concurrent en passant par le marché américain. C'est fabuleux. C'est rien que pour ces 10 pages, vous pouvez tout jeter si vous voulez, mais ces 10 pages-là, tous les étudiants en business vont lire, tous les patrons doivent lire ces 10 pages-là. Comment, petit à petit, ils regardent que le point de faiblesse unique de son concurrent, c'est ça. C'est par là qu'il va l'attaquer. Il va déstabiliser sur le marché américain. Du coup, ça va déstabiliser le concurrent sur le marché mondial. Du coup, ça va donner un leadership qui va mettre Essilor en tête et mettre les deux autres derrière. C'est fabuleux. Derrière arrive, alors, en Chine, en Inde, au Japon, en Australie, comment est-ce que je fais, même quand je suis une multinationale qui sait faire des choses partout dans le monde, je dois rebâtir mes avantages compétitifs dans chacun des pays. Même une multinationale, elle est vraiment multinationale. Elle doit rentrer dans chaque pays, rebâtir ses avantages. Non, j'ai trouvé vraiment, c'est un vrai livre de stratégie,
si un jour
de grand patron, et là, j'ai beaucoup apprécié.
Si un jour j'avais pensé que je vous entendrais parler avec un tel enthousiasme d'un livre de patron, alors
j'ai
là, vraiment...
J'ai un seul regret, c'est qu'on sait qu'Essilor s'est marié avec Luxottica.
Oui.
Et il ne dit rien de cette fusion qui, aujourd'hui, ne semble pas marcher très très bien.
Je crois que malheureusement, pour tout un tas de raisons qu'on peut comprendre, c'est difficile pour Xavier Fontanet de se mêler de ce conflit, parce que je crois qu'il connaît un peu tout le monde.
Il connaît sûrement tout le monde.
C'est compliqué pour lui
de
s'exprimer sur le sujet.
Je pense qu'il connaît bien le sujet.
Eh ben, merci messieurs. Eh ben tiens, on va aller dans une petite entreprise, dans une entreprise en difficulté. Ça se passe à La Souterraine, c'est Stéphane Nicolo qui nous refait l'histoire. Vous allez voir, c'est passionnant.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Alors Stéphanie, on se replonge dans une histoire proche, une histoire sociale. On est en France et on commence dans les années 60.
C'est dans les années 60, effectivement, avec la BD Sortie d'usine, les GMES, la désindustrialisation et moi. C'est une bande dessinée du journaliste Benjamin Carle avec les dessins de David Lopez. Et en fait, Benjamin Carle retrace l'histoire de ses salariés de GMES depuis le début de l'usine à La Souterraine en 1963 jusqu'à sa reprise en 2017. Les salariés menacent alors de faire sauter le site pour éviter la fermeture.
Alors, justement, il nous fait le flashback, finalement.
Effectivement.
Hein, comment on en est arrivé là?
Et voilà, et on replonge en 1963 à la souterraine. Les Français découvrent à l'époque Le Mépris de Godard ou encore Les Tontons Flingueurs au cinéma. Le premier hypermarché Carrefour ouvre ses portes dans l'Essonne à Sainte-Geneviève-des-Bois. On est en plein Trente Glorieuses, dans une France beaucoup trop centralisée. De Gaulle crée la DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. Les entreprises sont alors incitées à délocaliser leur production en région, moyennant des indemnités. C'est ce que fera la Socomec, qui s'installe à la souterraine pour fabriquer à l'époque des portiques de balançoires et des jouets pour enfants. À la fin des années 60, face à la concurrence italienne, le patron restructure l'entreprise dans les véhicules agricoles, parce que c'est aussi ça l'histoire de ce site. Il a changé 8 fois de nom et de production depuis 63. À l'époque, constitué en syndicat, les salariés réussissent à obtenir les 35 heures sans diminution de salaire dès 1986.
Mais était-ce bien raisonnable?
Après 6 jours de grève, là n'est pas la question. Et à l'époque, la lutte, rappelle Benjamin Carl, la lutte servait à gagner des acquis sociaux.
Et oui.
Aujourd'hui, juste à gagner son emploi.
Mais oui, mais quand je vous dis est-ce que c'était raisonnable, c'est-à-dire que est-ce que les difficultés, et notamment les difficultés de compétitivité de GMS ne viennent pas aussi de là?
C'est pas ce que semble dire Benjamin Carl dans la BD. C'était pas un problème de compétitivité, mais bien un problème des repreneurs, finalement. Pour Benjamin Carl, il a rencontré l'avocat des salariés qui aide les salariés. Et cet avocat explique que c'est un cas d'école, finalement, cette usine GMS. Les repreneurs sont toujours adoubés par les donneurs d'ordre et ne viennent pas pour développer le business, ni chercher de nouveaux débouchés, mais en fait pour obéir à PSA ou Renault. Là, c'était le cas en l'occurrence. L'auteur nous parle de l'opération Raoul.
L'opération Raoul.
C'est le nom de code donné par PSA à l'opération qui devait mener à la fermeture du site. PSA a voulu faire porter le chapeau aux ouvriers après la découverte de pièces défectueuses, sauf que ces mêmes pièces n'étaient même pas produites sur le site. Donc ça avait provoqué un énorme scandale. D'accord. Sur place.
Passionnant, merci beaucoup Stéphanie. Allez, on quitte la France et on prend le grand large avec Ben Aouda Abdelhaim, notre globe-trotteur.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Bonjour Ben Aouda.
Bonjour.
Allez, on commence par s'intéresser au rôle des minerais critiques dans les transitions énergétiques propres.
Une démonstration tout à fait implacable de l'Agence internationale de l'énergie, l'organisation qui défend les intérêts des États de l'OCDE. Il va falloir extraire beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de minerais pour sortir les panneaux solaires, les turbines d'éoliennes et autres véhicules électriques requis par cette transition. Dans ce domaine, d'ici à 2040, les besoins en cobalt, en cuivre, en lithium, en nickel, en terres rares, etc., je ne vais pas vous faire toute la liste, seraient au moins 30 fois supérieurs au volume actuel. Or, les projections restent très en deçà. Un certain nombre de graphiques parlent vraiment d'eux-mêmes, il suffit de regarder. Une unité éolienne contient au minimum 9 fois plus de ces minerais critiques qu'une centrale à gaz pour une puissance générée équivalente. Dans un véhicule traditionnel, il faut une trentaine de kilos de ces minerais. Le même en électrique, il en faut plus de 200 kilos. Alors, et encore, ça, tout va dépendre des standards à venir. Les chaînes d'approvisionnement sont décrites comme complexes et parfois opaques. Les producteurs vont être soumis à des normes environnementales plus strictes. La qualité des dépôts géologiques aussi pourrait baisser. Surtout, il y a une forte concentration de l'offre dans un nombre très réduit de pays producteurs. Paramètre auquel s'ajoute le fait qu'environ la moitié des mines de cuivre et de lithium, notamment, se trouvent dans des zones à fort stress hydrologique. La discordance paraît donc imminente, je cite,
incroyable,
entre les ambitions climatiques et la disponibilité de ces minerais pour les atteindre, ces objectifs. Des facteurs de risque substantiels peuvent donc conduire, nous dit-on ici, à un resserrement des marchés et à de nouveaux cycles de prix haussiers qui ne pourront alors que ralentir la transition énergétique. Et si l'on suit ce document de l'AIE, il en va de la mise en œuvre réelle pratique de l'accord climatique de Paris.
Mais attendez, concrètement, si on regarde à la fois les problèmes d'efficacité énergétique et d'offre, c'est on va droit dans le mur, quoi.
C'est exactement ce que dit l'AIE.
Incroyable. Ah, j'avais jamais vu la démonstration faite de façon aussi.
Et qu'il faut plus de mines partout dans le monde.
Exactement. Hein. Aussi implacable. Comment les banques chinoises financent-elles le risque forestier ? C'est quoi le risque forestier ?
Alors, le risque forestier, c'est ce risque de déforestation qui est financé par les banques. Donc, c'est un rapport qui ne va pas exactement dans le sens du discours international de la Chine comme acteur essentiel de la préservation de la biodiversité, comme le président Xi Jinping s'y est engagé lors d'un sommet des Nations Unies en octobre 2020. Alors, c'est une coalition d'organisations non gouvernementales spécialisées qui ont élaboré un projet qui s'appelle Forests and Finance, qui travaille sur le lien entre ces investissements bancaires et financiers et le risque de déforestation en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale et orientale et puis au Brésil. Alors c'est le chercheur néerlandais Ward Wardermaam qui et ses co-auteurs qui ont procédé à l'analyse de données bancaires de Chine entre janvier 2016 et avril 2020. Vous imaginez la quantité de travail que dont il a fallu faire preuve. Et ils estiment tous que ces établissements ont fourni pour 15 milliards de dollars de financement à des productions de matières premières qui ont provoqué la déforestation dans ces régions. C'est-à-dire que la production de pâte à papier, d'huile de palme, de caoutchouc, de soja, etc., il n'y a que les institutions financières du Brésil qui concentrent bien davantage de volume de prêts, sauf que la différence essentielle, c'est que le Brésil finance le Brésil et la Chine finance le reste du monde. Alors, les flux chinois les plus importants, c'est la banque ICBC pour le chimiste Sinochem dans des activités d'extraction et de commercialisation de caoutchouc. Et d'après ce qu'en disent les auteurs de ce rapport, les normes requises de financement dits responsables ne sont pas respectées. Ils réclament ainsi que ces banques chinoises œuvrent à une révision de leurs procédures. Une partie des préconisations, c'est de mettre fin à l'accord de financement lorsque l'entreprise bénéficiaire ne se conforme pas à un bon niveau de performance ESG, ESG pour environnement, social et gouvernance, ou en tout cas n'entreprend pas le nécessaire pour s'amender.
Ok. On reste en Chine. Ben Aouda, tiens, racontez-nous comment les médias chinois traitent le sujet de la vaccination.
Oui, c'est un récit d'État, en fait. C'est rédigé par le SCCS, pardon. C'est un centre d'études à Stockholm sur la Chine, soutenu par l'industrie suédoise. Pour rappel, AstraZeneca est un laboratoire suédo-britannique, ça a son importance. Karl Strantinge, pardon, décortique comment les organes de presse étatiques de Pékin contre les accusations de diplomatie vaccinale des vaccins anti-Covid en échange d'influence géopolitique. Alors, ils ont passé au crible, grâce à un logiciel, 12 000 articles. Voici ce qu'il en ressort selon cet analyste suédois. Le propos officiel chinois véhiculé vise à dénoncer le nationalisme vaccinal géo-égocentrique de l'Occident. Il y a aussi tout un aspect de promotion de l'innovation et du volontarisme scientifique chinois dans une compétition internationale. Mais avec par ailleurs une remise en cause de la méthodologie des concepteurs occidentaux de vaccins à ARN messager. Les Chinois, eux, paradoxalement, privilégieraient, ou alors je retire le paradoxalement, la sécurité du patient sur le taux d'efficacité. Et la terminologie employée relève aussi assez constamment de l'altruisme, largement vers les pauvres de ce monde, celle d'une puissance du Sud vers d'autres pays du Sud. Toutefois, les exportations de ces vaccins chinois dépassent largement les dons vers l'étranger. On voit que les tarifs facturés, en croisant les sources, se révèlent globalement plus élevés que les doses américaines ou européennes, qui elles-mêmes sont plus chères que les vaccins russes ou indiens. Rapport de prix de 1 à 5 entre le Sputnik V russe et le Sinovac chinois, par exemple. L'auteur estime que l'État chinois promeut tout simplement en fait les intérêts de ses fabricants pharmaceutiques face à la Big Pharma, dans une perspective de future superpuissance mondiale.
Bah, c'est vrai que si, ça c'est des travaux d'économistes, hein, s'il y avait eu une répartition mondiale des vaccins et pas nationale, bah, il y aurait eu beaucoup moins de morts à l'échelle de la planète. Merci beaucoup. Ben Aouda Abdelhaïm, allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Je ne pouvais pas quitter cette semaine sans parler de l'empereur, sans rendre hommage à Napoléon. Alors je l'ai fait de façon relativement modérée, c'est-à-dire je me suis appuyé sur le dernier numéro hors série du Monde qui est consacré à Napoléon. Donc il est abordé sur différents sujets. La partie la plus intéressante, c'est qu'il y a toute une série d'articles sur comment Napoléon est perçu à l'étranger et qu'il n'a pas laissé forcément un souvenir très très...
Mais il y a des pays où on adule Napoléon.
Oui, alors c'est le français le plus connu, mais en Espagne, on n'a pas
un souvenir très ému de Napoléon. Juste un mot là, parce qu'on n'en parle jamais, son bilan économique à Napoléon, c'est quoi?
Je crois qu'il y a très vite deux choses. Il faut se souvenir qu'il a créé la Banque de France, il faut se souvenir qu'en son temps, il a favorisé une certaine politique industrielle, il est à l'origine du sucre de betterave.
C'était quoi sa vision de l'économie?
Mais sa vision de l'économie, comme disait Chaptal, qui était un de ses ministres, il prenait l'économie pour un vaste régiment.
Bon, très bien, voilà, c'est clair. Christian Chabagneux, votre dernier choix.
Biographie de Charles Tillon, ministre communiste de Gaulle, plutôt oublié, qui a nationalisé Air France, qui a lancé Orly, qui a lancé Aéroport de Paris. C'est son petit-fils qui a récupéré tous les carnets de son grand-père, et donc ça nous donne une biographie très très riche. Un mutin qui a failli mourir au bagne, militant CGT, militant du Parti communiste dans les années 30, fondateur des FTP, des Front Terreur Partisans pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sera complètement trop critique de Moscou, donc purgé par le Parti communiste, qui au moment de la déstalinisation revient, qui finira sa vie en écrivant des livres, notamment sur l'histoire des FTP, l'histoire de sa vie. Personnage fascinant.
Je l'ai, figurez-vous, j'ai récupéré ça de la bibliothèque de mon père.
Eh bien, conservez-le.
L'histoire des FTP, absolument un personnage formidable. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.